Europe Soir Weekend.
Il est 19h14. Merci d'être à l'écoute de votre grand journal. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, on se pose la question chaque jour. Comment refaire de l'école un sanctuaire? Comment la préserver de cette violence? Comment restaurer et protéger l'autorité des professeurs? Et quelle place accorder, par exemple, aux parents d'élèves? Bonsoir Rodrigo Arenas.
Bonsoir.
Vous êtes co-président de la FCPE. La FCPE, c'est la première fédération de parents d'élèves de France. Jean-Michel Blanquer annonce ce matin un cadre clair pour la rentrée, pour renforcer les valeurs de la République, de la laïcité, pour protéger les professeurs justement. Et puis un hommage commun lundi 2 novembre en primaire et dans les classes secondaires à Samuel Paty. Il y aura une discussion avec les élèves, une minute de silence, la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Votre réaction de parents à cette annonce pour ce 2 novembre ?
Ben c'est effectivement une proposition que nous avions fait au ministre lors de la visioconférence que nous avons fait ensemble en préparation de cette rentrée justement. Et d'ailleurs nous proposions à chaque fois que c'est possible évidemment et sous l'autorité d'un chef d'établissement ou du directeur, la directrice d'école de faire participer les parents à ces minutes de silence parce qu'il est important que les enseignants sachent que les parents sont à leur côté et que pour chaque parent qui mord le trait, il y a des milliers de parents, voire des dizaines et des centaines de milliers de parents, notamment ceux de notre fédération, qui sont aux côtés des enseignants pour rappeler que nous travaillons à leur côté pour faire grandir les enfants dans l'école de la République et évidemment en suivant les préceptes de Jean Jaurès, mais de Jean Zay, de Ferdinand Buisson et tous ces grands Français qui ont fait l'école de la République laïque, gratuite, obligatoire dans notre pays.
On vous comprend votre attachement au dialogue, mais qui fait cours aujourd'hui? Ce sont bien les professeurs, les enseignants, les instituteurs et pas les parents. De quel principe partez-vous pour faire entrer à ce point les parents justement dans le corpus éditorial ou même dans ce type de commémoration ou d'hommage, Rodrigo Arenas?
Bah écoutez, s'il y a des écoles, c'est précisément parce qu'il y a des enfants. S'il y a des enfants, c'est qu'il y a des parents qui les ont mis au monde. C'est ce qui nous avons de plus cher et nous les confions aux enseignants pour les aider à les faire grandir. Et donc, il ne s'agit pas évidemment de rentrer dans la classe, sauf quand l'enseignant le demande pour des raisons très précises,
bien
comme
sûr.
Des accompagnements, quand il y a des parents ont certaines compétences. Par exemple, tous ces enseignants qui veulent faire parler d'écologie et qui font des jardins partagés, et quand les parents ont ces compétences-là et qu'ils travaillent ensemble. Mais évidemment, les parents ne sont pas des enseignants. Nous l'avons appris d'ailleurs pendant le Covid, enseigner c'est un métier, et nous avons peur, nous au contraire aujourd'hui, notre fédération a peur qu'on vienne à automatiser ce métier-là en leur faisant produire des compétences pour les enfants, en essayant d'automatiser, de robotiser d'une certaine façon leur travail, et de leur faire quitter ces lettres de noblesse que nous appelons nous, le métier d'enseignant c'est un métier artisanal. C'est-à-dire qu'à chaque enfant, le métier est particulier parce que chaque enfant est différent, et c'est cela que nous attendons de l'école, parce que tout enfant est différent et que la pédagogie est là justement pour cela. Donc il ne s'agit pas de prendre la place des enseignants, au contraire, il s'agit de la renforcer. Et d'ailleurs, tous les parents qui souhaitent donner des leçons d'une certaine façon aux enseignants, nous on les invite à passer le concours pour devenir enseignants eux-mêmes et ils verront ce que c'est que de travailler dans les conditions actuelles. Nous semble-nous que dans la société dans laquelle nous sommes, où la question de la rémunération en dit beaucoup sur la personne, nous pensons-nous que les enseignants sont sous-payés, que les conditions de travail ne sont pas acceptables pour faire leur métier correct. Exactement. Et il revient d'aller plus loin qu'un Grenelle, simplement de redonner aux enseignants
Blanquer.
Leur lettre de noblesse. Absolument.
Oui, sur la reconnaissance et sur l'essence même de la rémunération, de leur rémunération. Si vous êtes avec nous, Rodrigo Arenas, comme co-président de la Fédération des parents d'élèves FCPE, c'est aussi parce que vous publiez « Dessine-moi un avenir, plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école ». C'est des éditions Actes Sud et vous avez le sentiment que justement l'école est parfois hors sol, déconnecté de la réalité sociale, de la réalité aussi des divisions, comme on a pu le constater à l'aune de cet assassinat terrible. Quel est votre regard justement sur ces élèves et ces parents d'élèves qui mettent les enfants dans une école républicaine,
publique,
laïque, publique, et qui ensuite, eh bien, viennent interférer, critiquer la conception, la posture d'un enseignant? Que leur dites-vous? Ces citoyens sont français, difficile de les exclure, et qu'est-ce qu'on en fait?
Eh bien, il faut écouter ce qui se dit, il faut accepter aussi qu'on est tous un peu dépassés par la situation dans laquelle nous sommes. pas seulement en France, mais au niveau de la planète. Par exemple, on parle assez longuement, nous, des questions de l'écologie, des questions du numérique, qui sont au cœur, notamment à travers les réseaux sociaux, notamment de ce père qui a appelé un rassemblement, en fait, pour perturber l'ordre public devant un établissement. D'ailleurs, les élèves, stressément, n'auraient rien compris si des parents arrivaient devant un établissement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévenu le maire de Conflans-Sainte-Honorine, un potentiel trouble à l'ordre public suite à cette vidéo qui a été mise en ligne par ce père, dont d'ailleurs l'enquête semble dire que la fille n'était même pas dans le cours de Monsieur Paty.
Donc on est tous confrontés à cette viralité. Vous étiez averti, en tout cas, vous aviez pris conscience de l'ampleur de cette mobilisation sur les réseaux.
Alors on avait conscience de ça parce que nous travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir échangé pour écrire ce petit bouquin avec l'exigence de Bernard Mérieux en termes de pédagogie, parce que les parents doivent s'intéresser à la pédagogie, mais ne pas être pédagogue à la place des enseignants. C'est-à-dire comprendre ce que font les enseignants dans la classe est quelque chose de central pour accompagner son enfant. Et nous avons eu la chance aussi de pouvoir échanger avec Bernard Stiegler qui travaille énormément sur ces questions numériques, en cela qu'elle peut devenir toxique pour l'ensemble de la société.
Et qui ne sont pas assez enseignés justement dans l'enceinte de l'école,
Alors non seulement ils ne sont pas suffisamment enseignés, mais surtout on est tous un peu largués par ça. C'est-à-dire qu'on pense ce que d'ailleurs Rachid Zerouki a écrit et explique dans son livre Les Incasables, qui est un excellent ouvrage sur notamment les enfants de SECPA, qui explique que parce qu'on imagine que les enfants savent utiliser Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc., que tout à coup ils sont super férus de numérique. Non, on confond entre un usage de divertissement avec un usage pédagogique et éducatif. Et là-dessus, tout le monde est confronté à cette difficulté-là, les enseignants, comme les parents, comme les élèves, y compris comme certaines personnalités politiques. Je pense à un particulier qui s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture, qui a relayé une fake news, en fait, d'un message de George Orwell sur son livre 1984, qui en fait n'était pas vrai, puisque George Orwell n'a jamais écrit ce qu'il a mis sur les réseaux, mais pour autant, il a une viralité. Donc on est tous confrontés à cette difficulté, et je rappelle juste qu'il y a maintenant un an, le président Macron a signé un appel à Christchurch avec 26 pays, justement pour contrôler les GAFA. Et aujourd'hui, on en est toujours lettre morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre législatif et un cadre coercitif qui permettent en fait d'agir sur les réseaux sociaux, qui permettent d'être numérique, qui permettent d'éduquer les enfants.
C'est important justement de parler des GAFA, parce que vous soulignez très clairement dans votre livre, Drigo Arenas, comme parent d'élève et comme citoyen, qu'avec Google, l'accès universel à l'information ne redessine pas seulement les contours de la discussion privée, mais qu'il bouleverse les méthodologies d'apprentissage, qu'il bouleverse le statut du professeur au sein de sa classe. Aujourd'hui, évidemment, quand on rend une dissertation, difficile de voir quelle a été l'ampleur du copier-coller. C'est en cela qu'il faut revoir totalement la pédagogie, les enseignements, pour que cette école colle avec la réalité.
Ce que nous disons, nous, avec Bernard Stiegler notamment, c'est qu'aujourd'hui, le numérique apporte une révolution dans l'école de la même façon que le stylo ou l'imprimerie a pu apporter. C'est-à-dire qu'une technologie apporte un bouleversement dans la pédagogie et dans la façon dont on transmet aussi les connaissances et les savoirs. Et à cela, tout le monde est confronté à cette difficulté-là. On a vu pendant le confinement, par exemple, ces enseignants qui utilisaient des applications, mais de bonne volonté. Nous, on soutient les enseignants à fond. Enfin, pour nous, c'est des super-héros. Les enseignants, il faut être clair, il faut le dire très clairement. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas, faire cette remarque que certains enseignants, pendant le confinement, utilisent des applications qui ne protégeaient ni leurs données personnelles, eux, ni les données personnelles des enfants, et ni celles des parents. Donc on commence à être dépassé par cette technologie, et ça peut devenir toxique. Ça peut devenir toxique, par exemple, quand on sait qu'aux États-Unis, ou qui sont vraiment en avance sur la pénétration des GAFA dans la vie des jeunes, donc de nos enfants, mais aussi des adultes, avec l'augmentation du taux de suicide chez les préadolescents, mais aussi ces enfants qui finissent à l'hôpital parce qu'ils ont interagi, y compris en mutilant leur corps pour ressembler à leurs avatars sur Instagram, etc. Donc tout ça bouleverse inévitablement l'école, parce que l'école est aussi le réceptacle de ces évolutions technologiques. Et si on ne fait pas attention, si on ne met pas des crédits très offensifs, notamment à l'université, pour comprendre ce qu'apporte le numérique, alors l'école ne peut pas être à la dimension, parce que les enseignants, rappelons-le, sont là pour transmettre des connaissances et des savoirs à l'aune de la raison, à l'aune de la recherche, et que cette recherche précisément en France se fait à l'université. Donc il y a ce décalage entre les usages et avec l'application de ces outils d'un point de vue éducatif et pédagogique, et pas de divertissement à l'école.
Vous voulez préparer aussi les jeunes esprits à un grand défi, l'interdépendance, c'est-à-dire à la fois notre environnement, l'enjeu numérique, on en a parlé, l'écologie évidemment, et vous décrivez les parents comme une entité sachante. Vous souhaitez vraiment renforcer le rôle des parents au sein de l'institution pédagogique, Rodrigo Arenas?
C'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui de ne pas s'attarder quelque part à quelques parents qui mordent le trait par ignorance, parfois par aussi le fait que tout le monde aujourd'hui s'autorise à donner son avis sur l'école.
Mais où est l'autorité?
Sans aucune expertise.
Si les parents ont trop de place à l'école, qui respectera l'autorité du professeur? Qui est mise à mal par un certain nombre de parents d'élèves, hélas.
En fait, il y a quelque chose en France, c'est extraordinaire et c'est une vraie chance, ça s'appelle la loi, ça s'appelle le droit. Donc aujourd'hui, les parents n'ont pas le droit de critiquer, d'intervenir sur ce qu'on appelle la liberté pédagogique.
Mais beaucoup le font. Ils critiquent les sanctions, les punitions et l'éditorial.
Et il faut les rappeler à l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un chef d'établissement, il y a un directeur, une directrice d'école qui, évidemment, est dans le dialogue avec les parents, mais qui n'est pas là pour faire entorse au droit. C'est-à-dire que la règle commune doit privilégier, en fait, la relation institutionnelle. Et aujourd'hui, évidemment, ce trait-là est mordu parce qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent à donner leur avis sur l'école, comme, vous savez, c'est l'exemple qu'on donne dans le livre, comme quand il y a l'équipe de France qui joue un match international, tout le monde devient entraîneur et sélectionneur. Non, c'est pas ça l'école, c'est
donc,
sérieux.
Donc c'est pas la démocratie participative l'école.
Ça peut être la démocratie participative, mais en restant à sa place. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est un enseignant ou un chef d'établissement, et y compris les personnes qui sont en charge de l'hygiène de l'établissement, qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont des éléments centraux. Nous prenons cette démocratie scolaire où toutes celles et ceux qui font l'école pour les enfants donnent leur voix au chapitre, non pas pour prendre la place de l'autre, non pas pour mettre des dictates et non pas pour faire des haussements de menton, mais de réfléchir collectivement pour comment on fait évoluer cette institution scolaire qui est l'école dans l'intérêt des enfants. Et force est de constater qu'à certains égards, il y a beaucoup de travail. Alors on parle beaucoup des toilettes, par exemple, qui sont le point noir de notre école. Le ministre lui-même le reconnaît, mais il y a d'autres aspects. On pense qu'aujourd'hui, nos enfants se mobilisent énormément sur les questions de l'écologie, du développement durable. Et vous savez, la spécialité dans la réforme du lycée qui vient de naître pendant le mandat de Emmanuel Macron, la seule spécialité qui concerne l'écologie est laissée au lycée agricole et qui ne dépend même pas du ministère de l'Éducation nationale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'école aujourd'hui ne répond pas forcément aux enjeux auxquels nos enfants sont confrontés et qu'il faut évidemment intervenir dedans avec toutes celles et ceux qui font l'école, et les parents en font partie.
Et ça passe aussi, par exemple, par l'éducation au goût, par les cantines bio que vous appelez de vos voeux, et à ce titre-là, les parents sont pour vous des locomotives de ce progrès.
Bien sûr, les cantines scolaires sont y compris un levier économique. Il y a 1 milliard de repas qui sont distribués par an, donc vous imaginez ce qu'on peut faire pour transformer la filière école en France, plutôt que de se concentrer sur les néocotines pour les abeilles. Et d'une certaine façon, Si on utilise les cantines scolaires comme un levier économique, ça permettra d'agir fortement sur l'agriculture française et la sauver.
Je vous recommande la lecture de ce livre, Dessine-moi un avenir, plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école. Chez Actes Sud, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, était avec nous ce soir sur Europe 1. Merci.